Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale élections. Les élections, vous le savez, présidentielles, législatives, nationales et provinciales sont organisées ce dimanche 30 décembre, comme prévu par la CENI, sur toute l'étendue de la RDC, hormis 4 circonscriptions électorales. Près de 39 millions d'électeurs sont convoqués pour ce vote. Quelle analyse faire du déroulement des scrutins? C'est notre thème de ce soir et pour cette première partie de Dialogue entre Congolais, je reçois Maître Aimé Kilolo. Bonsoir.
Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre plateau.
Merci, vous êtes cadre du Front commun pour le Congo FCC. Vous êtes porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadary. Vidier Chimanga, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle pour le camp. Le compte de Cap vers le changement cache en sigle. Chérubin Okende, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de la coalition Lamouka qui soutient la candidature de Martin Fayoulou. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les élections générales se sont déroulées ce dimanche 30 décembre comme prévu par la CENI en termes d'illustration. Nous irons tour à tour à Lubumbashi et à Goma pour voir comment les choses se sont passées. Commençons par Lubumbashi où Neyi Kabena nous fait le point.
Comme on pouvait s'y attendre et vu le niveau d'engouement enregistré aux premières heures des opérations de vote, les électeurs sont encore plus nombreux devant les bureaux de vote qui ferment déjà. Dans certains bureaux de vote qui ont fermé depuis 17h30, les présidents des bureaux de vote ont récupéré quelques cartes d'électeurs des personnes qui étaient dans la... D'autres cependant n'ont rien pris et ont invité les électeurs de rebrousser chemin. Un autre problème est celui des témoins au bureau de vote du site Christopher où je me retrouve en ce moment. Plusieurs témoins ont été refusés d'accéder dans les bureaux de vote et signalons qu'à ce niveau, les présidents des bureaux de vote ont été très méticulés et ont observé le timing réservé dans les bureaux de vote par les témoins, soit 30 minutes. Et à ce moment, beaucoup de témoins se retrouvent dehors et ne savent même plus observer le temps de dépouillement qui commence déjà à se dérouler dans certains bureaux de vote. Depuis le site de vote Christ 3 dans la commune Kampemba où je me trouve, Neyi Kabena, Radio Kapi.
Merci Neyi Kabena, honore qui vous. Dans le territoire de Masisi, des miliciens du groupe NDC et de l'APCL ont envahi des bureaux de vote pour imposer le choix de leurs candidats aux électeurs. C'est dans la localité de Mwenda Bandu, en secteur d'Osobanyungu. Du coup, certains électeurs ont déserté les centres de vote selon les notables locaux. Des précisions avec vous, Gisèle.
À Bukombo, Luibo, Luchebere, Ngesha, Bugoye, Bouchore, Bondé, des villages de la localité Mwenda Bandu, tous les bureaux de vote sont envahis par des combattants NDC rénovés de Guidon et ceux de l'APCLS rénovés de Mapenzi. Ce dernier impose le choix de leur candidat aux électeurs, selon plusieurs témoignages corroborés par ceux de la société civile locale. Certains témoins ont même été chassés des bureaux par ces combattants et remplacés par ceux de leur choix, indiquent toujours ces sources. À Bourora, un affrontement a été évité de justesse entre l'APCLS rénové de Mapenzi, qui use aussi les mêmes méthodes contre les combattants d'Imendimé, selon l'autorité administrative de Masisi. Dans certains endroits, à Bukombo et Luibo par exemple, ces opérations se passeraient en présence des éléments de la police et de l'armée. Dans d'autres villages, par contre, il n'y a aucune présence des forces de sécurité, ce qui donne libre cours aux groupes armés de dicter leurs lois aux votants. Goma. Gisèle Cage, Radio Okapi.
Merci Gisèle Cage, Maître Aimé Kilolo. Vous êtes cadre du Front commun pour le Congo FCC, également porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadary. Comment se sont déroulés les scrutins pour vous? Commençons par les points positifs.
Ben, écoutez, moi je me suis rendu ce matin à 5h45 à l'Athénée de la Gombe pour attendre le candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadary, qui est arrivé aux alentours de 6h30, et ensemble, en compagnie d'autres cadres du FCC, nous avons attendu l'arrivée du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui est aussi l'autorité morale du FCC. Il est arrivé aux alentours des 7h, et c'est à ce moment-là que nous nous sommes dirigés dans un bureau de vote. Le chef de l'État a été le tout premier, il est accompagné de la première dame et de sa fille. Il a procédé, il a opéré son choix dans l'isoloir et a par la suite déposé le bulletin qui avait été imprimé dans l'urne. Ce que j'ai constaté, c'est que les opérations se déroulent normalement. Finalement, la machine à voter qui suscitait quelques inquiétudes a pu rassurer tout le monde dans la mesure où les deux grandes préoccupations, celle de s'assurer que l'électeur a la possibilité de vérifier que le document qui est imprimé correspond exactement au choix qu'il a opéré, notamment à l'élection présidentielle, ça a pu se faire. On a bien vu aussi que finalement les différents bulletins physiques qui se trouvaient dans l'urne allaient bien pouvoir, à la fin des opérations, faire l'objet d'un dépouillement dans le cadre d'un décomptage manuel des voix. Et au moment où nous parlons, plusieurs bureaux de vote sont effectivement en train de procéder à cette compilation des différents voix, des différents votes qui ont eu lieu. Et donc c'est plutôt toute satisfaction, d'autant plus que le 30 décembre 2018 est une journée historique en République démocratique du Congo. Le peuple congolais a pu finalement voter, c'est-à-dire se choisir en tout cas celui qui deviendra le 5e président de la République démocratique du Congo. Et c'est toute la satisfaction du candidat Emmanuel Ramazani Shadary.
Merci. Vidier Chimanga, vous êtes porte-parole de Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle pour le compte de Cap vers le changement Cash. Pour vous, comment sont déroulés les scrutins de manière générale? Commençons par les points positifs.
Écoutez, les deux points positifs que notre co-débatteur d'épinglé, celui de la rapidité de la machine et de son accessibilité, on va dire, au plus grand nombre. Ça, je pense que finalement, ce n'était pas si compliqué que ça de l'utiliser. Ça, c'est une première chose. La deuxième, au niveau des bulletins physiques et le décompte manuel, oui, je pense que grâce au combat que nous avons mené pour faire en sorte que cette machine soit une machine qui ne servira que dans son rôle d'imprimante, eh bien aujourd'hui, nous osons croire, jusqu'à ce stade-ci, que seul le comptage ou le décompte manuel pourra être pris en considération. Mais hormis ces deux points...
Alors peut-on considérer, parce que vous avez toujours la parole, peut-on considérer que vous avez eu peur de la machine un peu pour rien?
Non, pas pour rien, parce que cette machine a un certain nombre d'attributs, de capacités, dont entre autres de la transmission de données par Wi-Fi, de transmission de données qui ne correspondent pas à ce que la loi électorale autorise dans un cas d'élection comme le nôtre en République démocratique du Congo. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être encore utilisées à notre insu, à l'heure actuelle, par la CENI. Et justement, c'est le travail de nos témoins et de toutes les personnes qui sont, entre autres la SADEC et les autres observateurs, de justement pouvoir aller jusqu'au bout de la logique. Mais hormis ces deux points, tout le reste dans notre appréciation à l'heure actuelle est très tendancieux et je dirais à la limite de très grave.
Allons-y dans les détails.
Pourquoi grave? Parce que nous nous sommes rendus compte que dans quasiment l'entièreté de la République démocratique du Congo, une multitude de machines à voter n'ont pas pu fonctionner d'abord en temps et en heure. Certaines se sont ouvertes, se sont mises à fonctionner l'après-midi. D'autres n'ont pas fonctionné. Le nombre de bureaux de vote qui ont été, annulés avant même le jour de l'élection, ça c'est une chose. Mais pendant le jour de l'élection, et nous aurons un décompte complet cette nuit par nos services pour pouvoir identifier le nombre de bureaux qui n'ont pas fonctionné jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler aujourd'hui. Cela veut dire qu'il y a des citoyens congolais qui n'ont pas eu le droit d'avoir accès à leur droit au vote. Je pense que au niveau où nous en sommes aujourd'hui, c'est très grave. Un autre élément, dans les listes des électeurs, un électeur sur trois n'a pas pu retrouver son nom et donc n'a pas pu exercer son droit de vote. Encore une fois, c'est gravissime. Il y a eu, les dysfonctionnements, il y en a plus. Je peux les énumérer.
Voilà, souffrez que je vous arrête juste à ce niveau. Je vous redonne la parole tout de suite. Chérubin Okende, vous êtes porte-parole de la coalition Lamouka qui soutient la candidature de Martin Fayulu. Pour vous également, comment se sont déroulés les scrutins? Et commençons par les points positifs également.
Eh ben, en termes de points positifs, il faut saluer la mobilisation du peuple congolais qui s'est mis debout pour aller désigner ou choisir les dirigeants qu'il veut voir à la tête du pays. À Kinshasa notamment, c'est sous la pluie que j'ai eu des personnes âgées et des jeunes aller voter. Je crois que c'est très émouvant et cette population ou ce peuple congolais mérite vraiment d'être encouragé et félicité parce que son combat n'aura pas été vain. Son combat pour la démocratie, son combat pour décrier les atavismes dictatoriaux du régime finissant de Joseph Kabila n'aura pas été vain parce que à ce moment-là, c'est rendre honneur à Rossi Chimanga, c'est rendre honneur à Deschad Kapangala, c'est rendre aussi honneur à tout ce prisonnier qui croupissent dans les geôles du régime du fait d'avoir réclamé la démocratie. Je pense ici à des personnalités comme Franck Diongo, Jean-Claude Muyambo et j'en passe. Au fait, du point de vue négatif, du côté négatif, il faut...
Vous avez toujours la parole, Chérubin Okende. Vidier Chimanga a relevé deux points positifs, la rapidité dans l'exécution, la machine, l'accessibilité. Est-ce que vous partagez ce point de vue? N'aviez-vous pas peur de la machine à voter pour rien?
Non. Nos appréhensions négatives sur la machine demeurent. De la fonction imprimante, il faut que nous restions vigilants pour que la CENI, qui est instrumentalisée par le FCC, ne puisse pas nous amener à des fonctionnalités électroniques. Comment ça, cela commence? Vidier Chimanga a eu judicieusement à relever quelques options, quelques fonctionnalités qui pourront permettre à la CENI la transmission électronique de données, notamment le Wi-Fi, et le port USB, le Bluetooth et j'en passe. C'est maintenant que doit commencer notre vigilance. De l'imprimante, de l'impression du bulletin de vote jusqu'au comptage manuel strictement surveillé. À ce moment-là, nous pourrons nous apaiser. Mais ce qui est à craindre, c'est que la CENI utilise maintenant la compilation électronique des données. Et là, nous allons dans la violation de la loi. Tout notre combat aura été celui-là, en attirant l'attention de tout le monde, que cette machine-là, si elle se limite strictement à sa fonction imprimante, ok, ça pourra nous permettre d'avancer, mais est-il que la confiance n'exclut pas le contrôle? On n'a jamais fait confiance à la CENI parce qu'elle est sous la dictée du FCC et c'est connu de tous les Congolais.
Alors, dans la première partie, du moins la partie opérationnelle, on peut dire que la machine a facilité l'opération de vote.
Vous avez très bien posé votre question, ok? Quels sont les points positifs? Chapeau bas au peuple congolais qui veut le changement aujourd'hui et s'est mobilisé malgré les intempéries. Les points négatifs maintenant, permettez-moi de pouvoir les épingler. De un, on aura relevé environ 846 bureaux à des endroits non officiels. C'est-à-dire, on peut le trouver dans des bars, dans des restaurants, dans des hôtels, pas dans des endroits officiels.
Et c'est la mission d'observation de la SENCO qui a donné ces chiffres.
Très bien. Donc, ça corrobore avec notre propre observation. Il y a aussi des bureaux fictifs. À Kinshasa, à l'université Sepromad, dans le quartier Massina Petro-Congo, les citoyens congolais ont pu détecter un bureau fictif. Un bureau fictif, et il y a eu même dans le même quartier, à côté, sur l'avenue Njoko. Je donne des références pour que quiconque des méticuleux puisse aller vérifier. À côté de la paroisse Bossawa, il y a des bureaux fictifs.
Alors, souffrez que je vous arrête à ce niveau, cher Ruben Okende, tenant compte du temps de parole. Je redonne la parole à Maître Aimé Kilolo. Maître, pour vous, vous avez suivi Vidier Chimanga et cher Ruben Okende, commencez déjà à égrener la liste des aspects négatifs du scrutin d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous considérez comme négatif par rapport au scrutin d'aujourd'hui et par rapport à ce qu'ils ont relevé?
Moi, je dirais tout simplement qu'il faut reconnaître qu'un certain nombre d'électeurs ont eu du mal à savoir finalement où est-ce qu'ils allaient voter. Je l'ai vu moi-même parce que j'ai aussi, comme président national du PRPC vivant, déployé un certain nombre de candidats à travers la République. Mais il faut dire que cela est beaucoup plus dû au fait que les électeurs n'ont pas eu, pour la plupart, pour certains d'entre eux, la précaution d'aller se présenter dans les différents bureaux de vote lors de la publication des listes provisoires des électeurs. Ça aurait permis de faciliter un certain nombre de choses. Alors, lorsque j'entends...
Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt l'inverse, qu'il y aurait des problèmes de communication au niveau de la CENI, qui a annulé certains bureaux, qui a fusionné, transféré d'autres pour faciliter les opérations?
Écoutez, les noms des électeurs étaient déjà repris devant les bureaux, les différents bureaux de vote, bien suffisamment à temps. Donc il y avait bien possibilité de pouvoir se rassurer au préalable vers quel bureau de vote se diriger. Moi, je connais plusieurs cadres, notamment de mon parti politique, qui ont pu se rendre sans la moindre difficulté à leur bureau de vote parce que, justement, ils avaient fait diligence suffisamment à temps. L'autre élément que je peux évoquer, c'est que j'ai entendu dire dans une des observations que les témoins, certains témoins n'ont pas pu avoir la possibilité d'assister aux opérations électorales parce qu'on ne leur accordait que 30 minutes. Je pense qu'il y a là une confusion qui est faite entre un témoin, un observateur. Il est vrai que on l'a tous vécu aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'observateurs, de sorte que il y a eu un aménagement qui a été pris pour permettre aux différents aux différents observateurs de pouvoir justement observer ce qui se passait. Mais le plus important, ce sont les témoins, ceux qui sont attachés directement au candidat. Ces derniers ont pu, dans tous les bureaux de vote que j'ai pu visiter à Kinshasa, mais surtout à l'intérieur du pays, j'ai eu de nombreux contacts depuis 5h30 du matin. Eh bien, je dois vous dire que les témoins n'ont eu aucun mal de pouvoir prendre part, bien entendu, et assister en tout cas aux opérations de vote.
Maître Kilolo, peut-on dire que la CENI a pu relever le défi logistique d'amener le matériel électoral presque un peu partout à travers la République?
Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons 145 territoires sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, ce qui correspond évidemment à 145 circonscriptions électorales. Eh bien, je me réjouis de constater que le peuple congolais a eu effectivement la possibilité de pouvoir exercer sa souveraineté en opérant le choix pour le prochain candidat, le prochain président de la République démocratique du Congo, à l'exception évidemment de la situation dans l'Ituri, mais qui a été finalement comprise comme étant une situation de force majeure.
Merci.
Acceptée par toute la classe politique dans notre pays.
Merci. Vidiye Chimanga, avant que vous ne poursuiviez la liste non exhaustive des éléments que vous considérez comme négatifs, la CENI a-t-elle relevé le défi logistique d'amener le matériel électoral partout?
Ben absolument pas. Absolument pas, parce que nous avons relevé un certain nombre de bureaux de vote qui n'ont pas été fournis en machine. Et à la limite, ça aurait été dans le fin fond de la République démocratique du Congo. À la limite, j'aurais jamais accepté, mais j'aurais dit à la limite, ils ont un certain nombre d'excuses parce que les infrastructures n'ont pas été mises à disposition. Il y a certains endroits où il faut 7 à 8 jours pour pouvoir y arriver et on ne sait pas y arriver ni en camion, ni en avion. Il faut y aller à pied. Qu'à cela ne tienne, même dans les grandes villes, il y a des bureaux de vote qui n'ont pas été fournis dans tout le matériel. Il y a dans des communes comme la commune de Limété, des bureaux de vote qui n'ont reçu leur câble que vers 17h. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, les câbles d'alimentation ne sont arrivés que vers 17h. Nous sommes à Kinshasa. Imaginez à l'intérieur du pays ce que ça a donné. Dans les grandes villes de la République démocratique du Congo représentent plus ou moins 10% de la République. Dans 90% de la République, nous n'avons quasiment pas Dieu. Parce que toutes les caméras sont tournées vers ces grandes villes. Mais ce qui se passe à l'intérieur est gravissime. Alors, évidemment, lorsque j'entends Maître Kilolo parler d'une satisfaction, peut-être à la République de la Gombe, là où il a eu l'occasion d'aller voter, parce qu'on attendait le chef de l'État et des hautes personnalités du pays. Mais dès que l'on dépasse la République de la Gombe, excusez-moi, mais la situation, elle est réellement gravissime. La liste des électeurs dont Maître Kilolo est en train de parler, qui a été affichée sur les bureaux, oui, c'est très bien. Lorsque la liste est affichée et que votre nom ne s'y retrouve pas, et que vous avez une carte d'électeur dûment acquise, et que vous faites le tour de toutes les, de tous les bureaux, que vous ne trouvez pas votre nom, que pouvez-vous faire? Vous êtes un citoyen congolais de seconde zone? Et ça, cet échec-là, c'est l'échec, entre autres, de la CENI. Lorsque on parle des témoins qui ont eu 30 minutes ou que... Non, attention. Nous avons eu des témoins qui n'ont pas reçu leur badge d'accréditation. Nous avons reçu des cartons avec, soi-disant, les badges à la veille de donc hier. Dans ces bacs, au lieu d'avoir des badges d'accréditation, nous avions juste les fils, les câbles, sans badge. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train d'avancer lorsque l'on est en train de parler d'élections crédibles en République démocratique du Congo. La situation, vous savez, je ne vais pas être plus alarmiste encore que je ne le suis déjà à l'heure actuelle. Je vais attendre que nous ayons tous les résultats de nos témoins un petit peu partout sur l'étendue de la République. Et heureusement, nous avons fait ce travail de pouvoir mettre en place un système de monitoring, de relevé d'informations, de relevé de données. Et nous devrions avoir tous ces éléments ce soir. Je serais heureux de vous donner tous les détails supplémentaires au-delà de ce que la CENCO a déjà pu épingler. Je vous le rappelle, elle l'a épinglé à midi de ce jour-ci. À midi, plus de 846 cas de problèmes sérieux, en tout cas de bureaux prohibés. Merci. Et quand mon cher ami Chérubin parlait de bureaux prohibés, j'aimerais en ajouter un qui est quand même assez symptomatique, des bureaux de police qui se sont transformés en bureaux de vote. Je ne sais pas si Vidier. Les gens se rendent compte de ce que ça veut dire.
Merci Vidier. Chérubin Okende, la liste des éléments que vous considérez comme négatifs, vous pouvez poursuivre?
Ben, je vais ajouter, en ce qui concerne le défi logistique, ça aura été la preuve aujourd'hui d'un gros mensonge, et de la CENI et du gouvernement. Où sont passés ces hélicoptères? Où sont passés ces avions? Où sont passés tout ce moyen logistique dont ils ont fait étalage à un certain moment pour que dans certains bureaux, on se retrouve en difficulté? C'est ce que Vidier Chimanga vient de dire, est encore extrêmement grave à l'arrière-pays, où on ne sait même pas si certains de nos compatriotes ont eu à exercer leur droit citoyen de pouvoir voter. C'est extrêmement grave. Là où je voudrais également rattraper Maître Aimé Kilolo, le prochain président de la République. Certainement que ça ne sera pas celui de la continuité de cette situation de marasme généralisé que le pays connaît aujourd'hui. Le nouveau président de la République, ça sera celui qui est même adulé à Beni. Aujourd'hui, vous avez vu, avec l'exclusion des populations du Nord Kivu, de Beni, Butembo et de Yumbi, ce peuple a démontré que non, les machinations de la CENI ne valent pas. Et se sont organisés. On va voir bien aujourd'hui quelle sera l'attitude et du gouvernement et de la CENI par rapport à l'attitude des populations vaillantes de Beni. Je voudrais également mentionner quelque chose des témoins. Aujourd'hui, nous avons des preuves que la plupart des témoins qui sont issus des plateformes électorales, membres de la coalition Lamuka, ont été gênés, disqualifiés dans le bureau de vote, d'autant plus qu'on leur interdit même de voter dans le bureau de leur accréditation. C'est extrêmement grave, c'est encore une fois en violation de la loi électorale. Jusqu'à 14h, toujours des points négatifs. Il y a certains bureaux de vote qui étaient encore fermés, à Kingabwa notamment. Nous sommes à Kinshasa. Mbandaka, une machine a été déchargée une heure après sa mise en œuvre. Cela veut dire que même le temps de veille d'autonomie n'a pas été respecté. Ça laisse supposer que peut-être cette machine aura été utilisée avant pour consommer son temps d'autonomie. Nous devons donc demeurer vigilants. Nous ne voulons pas de fraude électorale. Le FCC qui avait ergoté l'autre fois en disant que Lamuka ou l'opposition ne gagnerait que par miracle. Non, il ne s'agit pas de miracle. Aujourd'hui, c'est la réalité, la volonté du peuple congolais de pouvoir changer.
Peut-on saluer le caractère apaisé de ces scrutins? Très rapidement, Maître Kilolo, de manière générale.
Je voudrais très rapidement rendre hommage à son excellence Joseph Kabila Kabange, qui finalement a réussi à faire en sorte que les élections générales, les troisièmes élections générales en République démocratique du Congo puissent être organisées dans le calme, dans la paix, sans aucune violence. Il faut reconnaître qu'un certain nombre d'acteurs politiques de l'opposition, pas de moindre, avaient eu à un moment donné des propos qui incitaient à des actes de violence. Et je dirais, enfin, il faut-il le rappeler que nous attendons les résultats qui sortiront des urnes. Le meilleur perdant, de toutes les façons, disposera en tout cas du statut de porte-parole de l'opposition. Et le candidat Emmanuel Ramazani Shadary, si jamais il était élu, veillera aussi à rester ouvert aux perdants de l'opposition dans le cadre de la cohésion nationale pour la formation du prochain gouvernement.
Merci Maître Vidi Echimanga, le caractère apaisé de ces scrutins, de manière générale, parce que ce soir, je crois qu'on a signalé des morts à Kamituga, voilà, au sud Kivu.
À partir du moment où il y a ne fût-ce qu'un seul mort, ce n'est pas, on ne peut pas parler de caractère apaisé, mais il y en a eu une multitude de morts. Il y a eu beaucoup de morts, et ils sont à déplorer sur toute l'étendue de la République.
Aujourd'hui,
il y a eu plusieurs morts. Nous avons eu des sources, en tout cas au nord Kivu. Nous avons entendu la perte d'une personne dans le Kasaï, deux personnes pardon dans le Kasaï. Les autres, comme je vous dis tout à l'heure, j'attends d'avoir tous les éléments de notre monitoring pour pouvoir les avancer.
Mais pour vous,
un mort est un mort de trop pour la République démocratique.
Cher Rubin Okende, le caractère.
Un mort de trop, il faut exhorter le président de la République sortant, Joseph Kabila, de donner la paix au peuple congolais. Les Congolais n'ont pas besoin aujourd'hui, en réclamant l'alternance au sommet de l'État, qu'on puisse les tuer. Pendant que nous sommes en train de parler, il nous est signalé que Angili et Amassina, ici, à côté, sur l'avenue Njoko, là où on aurait détecté des bureaux fictifs, il y a même le déploiement des militaires, avec menace sur la population. C'est extrêmement grave si on veut passer des élections totalement apaisées. Aujourd'hui, les sondages donnent, parce que nous nous sommes organisés pour ce fait, environ 71% du suffrage favorable à Martin Fayulu. Qu'on ne nous vole pas notre vote.
Voilà, je pense que nous devons éviter de tomber dans les pièges des sondages, de proclamer son candidat, celui-là ou celui-là, président. Je pense que c'est dit pour tout le monde qu'on s'en tienne à ce principe-là. Maître Meki Lolo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kikwit.
Gabi a 10 fois depuis Kikwit dans la province du Kwilu. Partout, il se posait un problème, soit technique, soit les électeurs ne savent pas où voter, soit encore ce sont les machines à voter qui arrivent, s'ouvrent en retard puis s'éteignent avant. À mon avis, les opposants ont été embarqués dans un corbillard qui les transporte vers une destination inconnue. C'est scandaleux et honteux. Pour ça, nous demandons à la CENI de bien vouloir nous donner les résultats selon la réalité des urnes pour tous les candidats députés tant nationaux que provinciaux et les résultats particuliers du président suivant la façon dont la campagne s'est déroulée, parce que c'est là où le peuple avait déjà montré son choix. Le contraire serait une menace à la paix sociale.
Maître Kilolo, peut-on déjà aujourd'hui, à chaud, peut-être qu'il est un peu trop tôt, mais à chaud, peut-on parler déjà d'élections transparentes et crédibles?
Ben, en tout cas, ce qui me concerne, je dirais bien que oui, pour la simple raison qu'au moment où je vous parle, et là je rends hommage à des très nombreux Congolais se trouvant dans le territoire de Malembankoulout, c'est-à-dire au fin fond de la province du Haut-Lomami, qui sont venus nombreux participer au vote. Ils l'ont fait dans le calme, dans la sérénité, dans la transparence. J'ai vu dans ce grand territoire de la République démocratique du Congo, dans l'arrière-pays, les différents témoins des différents candidats, y compris de la majorité, tout comme de l'opposition, assister aussi aux opérations de compilation des voix. Donc, de ce point de vue, en tout cas, ça se passe plutôt dans la transparence. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut absolument attendre les résultats provisoires qui vont être proclamés par la CENI. À la suite de cela, il y a un délai qui est ouvert pour ceux qui seraient notamment perdants de saisir la Cour constitutionnelle et attendre que la Cour constitutionnelle seule puisse éventuellement vider le contentieux électoral et nous dire qui est le cinquième président de la République. Et pour ma part, je dirais que Emmanuel Ramazani Shadary est le candidat de la continuité de la vision de Joseph Kabila Kabange, mais il est le candidat de la rupture en ce qui concerne la méthodologie, la démarche, le procédé en ce qui concerne la mise en œuvre de cette grande vision. Merci, qui maître. Est aussi la vision des pères de l'indépendance qui voulaient faire du Congo un grand pays souverain, indépendant. Merci, et surtout maître. Qui voulaient restaurer les tissus économiques et sociaux.
Merci maître Vidiye Chimanga. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Raymond Diongo Chongo depuis la ville et province de Kinshasa. Je suis surpris complètement de la tenue des élections aujourd'hui, malgré les contraintes que la CENI nous a fait vivre tout au long de ce processus électoral. Les Congolais aujourd'hui devant les bureaux de vote ont présenté non seulement les ambitions de voter, mais aussi un comportement de responsabilité, car déjà fatiguée, la population congolaise veut que ces événements passent d'abord pour s'occuper à autre chose. Tout ce qui reste maintenant, c'est le respect de la vérité des urnes pour éviter les revendications des peuples congolais à voir la proclamation du candidat non choisi et non élu.
Vidiye Chimanga, votre commentaire sur cette réflexion?
Ben écoutez, je pense que c'est une réflexion tout à fait légitime d'un citoyen congolais par rapport aux attentes, à toutes ces attentes que nous avons tous par rapport à ces élections. Et je suis tellement sidéré, enfin même enfin je sais pas, je sais même pas quoi dire en fait lorsque j'entends j'aurais tellement aimé que Maître Kilolo puisse passer sur les télévisions avant même ce jour des élections, lorsqu'il nous dit que heureusement que Emmanuel Shadary n'est pas comptable de finalement un manque de vision, un manque de méthodologie, un manque de tout, donc finalement d'un échec, si je comprends bien. Eh bien là, Maître Kilolo a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Le peuple congolais aujourd'hui, il a voulu ces élections pour justement manifester la rupture de passé, une vraie rupture, un vrai changement. Et il a tout à fait raison, Maître Kilolo, lorsque il dit ça. Et ce changement, il est dans les urnes. À l'heure où nous sommes en train de parler, ce changement est dans les urnes. Et nous allons tout faire, grâce à nos témoins, grâce à toute l'organisation que nous avons mise en place au niveau du CASH, et j'ose espérer que aussi au niveau de nos collègues de la MUCA, ils ont fait le même travail, parce que nous allons pouvoir démontrer par A plus que cette continuité dans la médiocrité, comme beaucoup l'ont dit ces derniers mois, eh bien que cette continuité, eh bien c'est la rupture aujourd'hui, c'est un grand changement. Et je suis très content aussi que Maître Kilolo dise que le nouveau président qui sera élu, et je sais qu'il est conscient que ce ne sera pas le sien, Monsieur Emmanuel Shadary, eh bien que le nouveau président, sachez-le, il devra travailler avec une multitude de députés, une multitude de personnalités qui, certes, aujourd'hui, font partie aussi d'un système qui est un système finissant. Merci. Mais qui sera l'avenir aussi de la République démocratique du Congo.
Cher Ruben Okende, pour vous, cette réflexion qui nous vient de Kananga, au Kasaï central.
Je m'appelle Sébastien Ndaye, depuis Kananga, au Kasaï central. En effet, tout en félicitant la CENI qui a gagné le pari d'avoir organisé tant bien que mal les trois scrutins simultanément dans un pays continent comme la RDC, ce qui constituait un défi de taille pour cette dernière, la flamme Étienne, il n'en demeure pas moins vrai que les difficultés logistiques et techniques ont été remarquées ça et là sur toute l'étendue du territoire national. Et partant, ne perdons pas de vue que c'est sur fond propre que cet organe d'appui à la démocratie est parvenu à organiser ces élections tant attendues par les Congolais. Ainsi donc, après avoir rempli son devoir civique, le peuple congolais doit à présent créer un environnement propice pour assister au transfert pacifique du pouvoir entre le président sortant et celui qui sera déclaré vainqueur, et c'est pour la première fois depuis l'indépendance de la RDC.
Ne faudrait-il pas saluer, Chérubin Okende, ces élections organisées sur fonds propres du gouvernement congolais, comme le dit Sébastien Ndiaye?
Eh bien, si elle n'était pas émaillée d'irrégularités, d'incertitudes et tout ce que nous pouvons déplorer, on aurait pu féliciter. Mais nous ne devons pas faire de l'autosatisfaction, sinon ça risque de se traduire en autoflagellation. Les difficultés logistiques et techniques. Aujourd'hui, la CENI ne pourra avoir aucune excuse parce qu'ils ont tant vanté les capacités et du gouvernement et de la CENI à pouvoir nous produire des élections l'on ne peut plus parfaites. Et je rappelle ici qu'il n'y a pas longtemps, le président de la République sortant, Joseph Kabila, parlant à un médium étranger, avait même dit qu'il s'évertuait à offrir aux Congolais des élections parfaites. Et donc aujourd'hui, c'est encore une autre preuve de cette incapacité de pouvoir offrir aux Congolais des élections qu'ils méritent. Cela me rappelle également l'intervenant du Kwilu qui a parlé de corbillard. Heureusement que pour nous, à la Moka, nous ne voulons pas tirer sur un billard. Je crois que l'expression, elle est claire. Élection transparente et crédible, cela ne se décrète pas. La crédibilité des élections doit se constater sur le terrain. Aujourd'hui, avec les prétextes créés par la CENI, entretenus par le FCC, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir la cécité politique de dire que non, ces élections seront totalement crédibles. Si et seulement si nous ne faisons pas attention. C'est pour cela que j'invite également notre compatriote de cash, Vidi Chimanga, de transmettre de l'autre côté en disant que nous devons veiller, c'est maintenant ou jamais, que nous ne devons plus donner l'occasion au FCC de pouvoir tricher et travestir le vote du peuple congolais. La Cour constitutionnelle, oui, je veux que Maître Aimé Kilolo reste dans le réflexe d'un avocat, le réflexe d'un juriste. Ben, est-il qu'aujourd'hui, cette Cour constitutionnelle, doit-on attendre son verdict yeux fermés? Moi, je ne dis non, parce qu'il y a risque de manipulation et les exemples sont légion. Aussi, je félicite Aimé Kilolo. Dans sa rectitude, aujourd'hui, il démontre que même au sein du FCC, il y a des aveux cinglants sur Kabila et sa manière d'avoir géré la République. Que ce soit l'ambivalence entre la rupture et la continuité quand il entretiendrait le FCC, c'est totalement clair que le peuple congolais veut d'un changement radical. Et ce changement est incarné par la Moka.
Maître Aimé Kilolo, hier samedi, la SADC a organisé des concertations avec les candidats et la CENI pour obtenir leur signature pour des élections apaisées. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a aucune signature qui a été faite. Comment devrait-on interpréter cela?
Il faudrait simplement interpréter les actes, les attitudes, le comportement des différents candidats de l'opposition comme finalement étant relevant de la contradiction. C'est-à-dire, on ne peut pas d'une part dire qu'on ne veut pas des élections parce que on n'accepte pas la machine à voter, parce que 10 millions des personnes enrôlées, on n'a pas prélevé leur empreinte digitale, mais d'autre part, se présenter à cette même élection et donc finalement reconnaître la crédibilité et la fiabilité du processus électoral. Moi, ce que je dirais simplement aujourd'hui, c'est de constater que de tous les candidats qui se sont présentés, eh bien, l'expérience politique de Manuel Ramazani Shadary fait de lui aujourd'hui le favori de ces élections.
Maître,
et terminerai
vous
simplement.
Vous avez vous-même souhaité que l'on attende disant, les résultats provisoires.
Tout à fait.
Alors j'ai demandé autour de cette table qu'on évite de dire que mon candidat qui va faire ceci, qui va faire cela. Je propose que l'on attende les résultats provisoires.
Alors j'en terminerai simplement.
À Béni Maître Kilolo, une élection symbolique a été organisée, tout en sachant que l'on ne tiendra pas compte de leur voix, mais les gens se sont mobilisés, ont organisé un scrutin à leur manière. Comment vous comprenez ça?
Moi, le plus important, c'est simplement de dire ceci, que le scrutin présidentiel a pour circonscription unique l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, mais que la situation de force majeure peut faire, comme c'est le cas à Béni, que un certain nombre de compatriotes ne puissent pas participer au vote, comme ça a été le cas pour les Congolais de l'étranger. Mais le plus important, c'est de savoir que les habitants qui sont, les Congolais qui sont à Beni, ont bien entendu le discours d'Emmanuel Ramazani autour de sa grande vision, la lutte contre la pauvreté, la fin de l'impunité, de la fraude, du détournement des deniers publics. Et finalement, je me réjouis de dire que tout indique manifestement le prochain président de la République pourrait bien être Emmanuel Ramazani Shadary.
Merci maître. Je rappelle que nous devons nous en tenir au principe. Vidi Chimanga, deux choses, les concertations d'hier entre la SADC et les candidats n'ont rien donné, et puis ce vote symbolique à Beni.
Oui, ben écoutez, les discussions que nous avons eues avec la SADC portaient sur des points de bon sens. Et des engagements que les candidats présidents de la République et la CENI autour de cette table pouvaient apporter. Et nous avons émis un certain nombre d'amendements au document qui nous avait été proposé. En substance, le document en lui-même demandait à ce que que les différents candidats présidents de la République ne verseraient pas dans la violence. Bon, il va de soi que la violence n'a jamais été notre volonté. Il faut savoir que nous sommes des citoyens congolais, nous sommes la population congolaise qui est en face d'une machine qui est le gouvernement actuel et le FCC en règle générale, qui par contre, elle, de son côté, a tendance à utiliser les armes contre la population congolaise. Et c'était, nous, une première crainte. Mais la deuxième crainte, et ce que nous avions apporté comme amendement, entre autres, c'était que la CENI puisse s'engager sur des points tout à fait particuliers, comme celui de nous garantir et de nous assurer que le comptage et que les seuls résultats qui compteront seront les résultats sortis du comptage manuel des bulletins papier mis dans l'urne. Eh bien, sachez que ce document et la SADC, mais surtout la CENI, ont refusé de le signer. Et surtout, le FCC aussi a refusé de signer ce document. Ils ont préféré juste signer le document qui dit « Oui, nous garantissons que notre candidat président de la République ne va pas chercher la violence. » Mais, excusez-moi, je suis vraiment vraiment abasourdi parce que j'entends aujourd'hui par Maître Kilolo qui, au demeurant, est quelqu'un de vraiment très, très intelligent. Moi, ce que je ne peux pas comprendre, ce que nous venons de passer aujourd'hui, et monsieur parle de monsieur Shadary, il est comptable de toute cette médiocrité dont il vient de parler.
Merci, Vidier.
Je n'ai pas parlé de mon candidat. Je suis le seul, je pense, autour de cette table.
Je
pense que notre cap pour le changement aujourd'hui a démontré que là où nous avions la confiance, nous avions la confiance de la population congolaise.
Merci.
Et nous avons confiance en le fait que si les résultats dans les urnes
merci
sont
souffrez
ceux que
je vous arrête.
C'est bien nous et bien l'opposition qui aura gagné.
Merci, cher Ruben Okende. Un mot sur le vote symbolique à Beni et puis quel pourrait être, selon vous, le mérite de ce scrutin?
Eh bien, vote symbolique à Beni, c'est une symbolique très forte que ce peuple-là a démontré que la CENI, instrumentalisée par le FCC, voulait disqualifier tous ceux qui ne regardaient pas dans la même direction que le FCC. Rappelez-vous que d'autres personnalités comme Moïse Katumbi ont été malencontreusement disqualifiées, empêchées de pouvoir participer aux élections. Et ce peuple de Beni rend compte devant l'opinion tant nationale qu'internationale que les faux prétextes utilisés pour qu'il ne participe pas à l'élection d'un président de la République, ce prétexte-là sont superflus, ce prétexte-là ne valent. Et finalement, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que Ebola les a ravagés? Est-ce que les milices qui sont entretenues par ailleurs pour tuer des Congolais dans le Nord Kivu, ces milices-là ne devraient pas, l'éradication de ces milices-là ne devrait-elle pas relever de la responsabilité de l'État, du gouvernement, du pouvoir du président Joseph Kabila, qui par ailleurs est commandant suprême de nos forces armées? La sécurité des Congolais relève de quelle gouvernance? Voilà pourquoi cette symbolique est très forte pour anéantir tout le faux prétexte utilisé par la CENI.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme mérite des scrutins d'aujourd'hui? Il faut déjà commencer à conclure.
Je l'ai très bien dit dans l'entame de cette émission, c'est que le peuple congolais est totalement mobilisé pour s'exprimer et jouir de ses droits de souveraineté. La souveraineté appartient au peuple et n'appartient à personne de pouvoir confisquer la souveraineté de ce peuple-là. Et cette souveraineté doit s'exercer notamment dans le choix de dirigeants. Aujourd'hui, ce peuple est mobilisé pour trouver le changement dans sa vie quotidienne, le changement dans la pratique de la politique en République démocratique du Congo. Et c'est une marche qui a commencé aujourd'hui parce que nous sommes tous...
En conclusion.
En conclusion, continuons toujours à veiller pour que le vote du peuple ne soit pas travesti. Il s'agira vraiment d'un miracle ou d'une fraude flagrante qu'on puisse nous publier ou nous proclamer. Merci. Emmanuel Chadari comme président de la République.
Maître
Ça
Kilolo,
sera une forfaiture.
Maître Kilolo, conclusion.
Ben, je dirais tout simplement, au nom d'Emmanuel Ramazani Chadari, toute la gratitude pour ces populations des 25 provinces de la République qui sont venues très nombreuses à sa rencontre et qui lui ont donné l'occasion de palper à nouveau les réalités, les préoccupations quotidiennes du peuple congolais. C'est par respect pour le peuple congolais qu'il l'a fait, mais aussi pour pouvoir mieux appréhender leurs problèmes en vue d'y apporter les solutions, même s'il a été finalement les seuls à avoir parcouru quasiment toute la République durant cette campagne.
Vidi Chimanga, conclusion.
Le seul qui a parcouru toute l'étendue de la République avec les moyens de l'État, donc avec l'argent du peuple congolais, cela étant dit. Nous avons eu un grand plaisir à sillonner la République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe et Cap pour le changement. Nous savons aujourd'hui que le peuple congolais s'est mobilisé, qu'il s'est exprimé dans les urnes et nous allons faire en sorte que ce soit le résultat des urnes qui soit plébiscité dans les prochains jours.
Merci monsieur. Fin de cette première partie de notre édition spéciale Dialogue entre Congolais spécial élection. Je vous invite à suivre la seconde partie dans moins d'un minute. Elle sera présentée par Guy Maté. Restez à l'écoute sur la radio de la paix. À tout de suite.
Bonsoir. Suite des organes congolais spéciales élections générales en RDC, les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales ont eu lieu ce dimanche 30 décembre comme prévu par la CENI sur toute l'étendue de la RDC, hormis quatre circonscriptions électorales, à savoir Beni Territoire, Beni Ville et Butembo Nord Kivu, ainsi que Yumbi à Maindombe. Près de 39 millions d'électeurs étaient convoqués pour ces votes. Quelle analyse faire du déroulement de scrutin? C'est le débat, n'est-ce pas, de ce soir. Et nous en parlons avec nos experts. Professeur Félicien Kabamba, il est professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Bonsoir, professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir.
Alain Lomandja, il est analyste des questions électorales. Bonsoir, monsieur Alain Lomandja.
Bonsoir Guimaté, bonsoir à tous les auditeurs.
Et lui, il va nous rejoindre, c'est Jérôme Bonceau, il est président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'ILENIT en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Il sera là dans quelques minutes. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Comme nous l'avons dit tantôt, les élections se sont déroulées ce dimanche 30 décembre 2018 en RDC. Le porte-parole de la CENCO a fait le point sur le déroulement des scrutins à travers les pays. L'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO, explique les constats faits par la CENCO à ce stade du vote. Il est joint par J.R. Lungembo.
On a relevé 544 rapports qui ont signalé le dysfonctionnement de la machine à voter, soit ça ne démarrait pas, soit la batterie détériorée. Il y a 115 rapports qui ont signalé le refus, l'exclusion des observateurs dans le bureau de vote. 96 rapports qui ont signalé le refus, l'exclusion des témoins dans le bureau de vote. Il y a 44 rapports qui ont signalé les cas d'achat de vote, notamment l'achat des cartes d'électeurs ou de corruption, de tentatives de corruption des membres du bureau de vote. Il y avait aussi les cas de violence, notamment Inongo, de vandalisme plutôt. On ne sait pas comment finira la journée. Nous espérons qu'avec cet appel à mi-journée, les parties prenantes pourraient faire mieux dans les heures qui suivraient.
Est-ce que vous estimez qu'il y a eu des incidents et qui peuvent mettre à mal les résultats de ce vote?
Ben, je crois que c'est très tôt de conclure dans ce sens-là. Ça demanderait une analyse approfondie. Vous savez, trois incidents peuvent avoir plus d'impact sur la crédibilité du processus que sans incident.
Merci, monsieur Jérôme Bonceau, bonsoir.
Bonsoir, cher ami. Bon, Guimaté, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Voilà, nous rappelons que vous êtes président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales ont eu lieu ce dimanche en RDC. Et vous avez vu comment les choses se sont déroulées. Quelle est votre première impression?
Ma première impression, c'est une impression de situer ces élections dans un contexte historique. Contexte historique pour la République démocratique du Congo, ces élections, tant entendues, dont on a pu les recaler à trois reprises, et certains sont ceux-là qui ne pensaient pas qu'on pouvait arriver à ce rendez-vous de trois scrutins. Ce rendez-vous qui a été le fruit de deux dialogues, du dialogue de la cité de l'Union africaine et du dialogue de la CENCO, où les acteurs politiques, à l'unanimité, ont levé l'option qu'on puisse organiser les triples scrutins, la députation nationale, la députation provinciale et l'élection présidentielle. Et voilà le résultat de cela. Et quand on jette un regard rétrospectif de l'histoire de ce processus électoral, ça nous renseigne que nous avons pu tergiverser d'organiser les élections dans le délai constitutionnel et que ces élections n'étant pas en mesure de les organiser dans le délai constitutionnel, nous étions obligés de les organiser dans un délai autre que celui qui était prévu par la Constitution de la République. Et à ce moment-là, ces premières élections ont eu un caractère des élections typiques parce que ça n'a pas obéit à la logique classique constitutionnelle des élections. Et cela était dû à quoi? À autant de facteurs. Mais le premier facteur et le plus important, c'était le facteur de connaître la taille de la population, de l'électorat. Et pour connaître la taille de l'électorat, il faudrait se référer à un recensement de la population. Or, la République démocratique du Congo, depuis 1984 jusqu'à nos jours, n'a pas pu organiser le recensement. Donc, on avait difficile à arriver à arrêter les corps électoraux, à procéder avec précision au découpage des circonscriptions électorales. Et c'est pourquoi on a pris un raccourci. Le raccourci, c'était l'enrôlement des électeurs. Or, ce raccourci a ses failles et ses avantages. C'est là où c'était fait avec 3-4% de marge d'erreur. D'où il fallait construire ce fichier. Et le temps que ça devait nous prendre. Si on était comme d'autres pays africains qui avaient la culture de l'état civil, où l'enfant naissait et il était enregistré directement, et le recensement se faisait de façon automatique, on n'allait pas connaître ce retard. Les élections n'allaient pas être repoussées. C'est pourquoi moi je me réjouis, je me félicite, parce que j'avais mené une étude le 1er octobre 2015 pour démontrer que les élections n'auront pas lieu à la date dans le délai constitutionnel. Il faudrait faire cette opération qui allait nous prendre 32 mois, et ma projection était que les élections n'auront pas lieu en 2016, mais plutôt en 2018. Et cette étude a eu maintenant aujourd'hui
les faits semblent vous donner raison.
Oui, c'est un travail scientifique, parce que c'est ce que je fais, c'est un travail scientifique. Ça me réconforte. Ça me n'en déplaise à ceux-là qui doutaient à ce temps-là. Maintenant, tout le monde est venu à l'évidence. Mais aujourd'hui, nous assistons à un grand jour. À un grand jour qui va être inscrit dans les annales de l'histoire électorale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, malgré tout ce que nous connaissons, nous prenons les élections congolaises comme une femme qui doit mettre au monde l'enfantement. Il y a des douleurs par-ci par-là, il y a des ratés par-ci par-là, mais nous devons arriver au résultat.
Voilà, vous avez dit que vous situez ces élections, n'est-ce pas, dans un contexte historique. Nous avons vu ce matin comment Kinshasa s'est réveillé avec une forte pluie, mais cela n'a pas empêché les gens à pouvoir aller voter. On a senti une certaine détermination, n'est-ce pas, de la part des votants. Comment vous expliquez cela?
C'est le grand enjeu, mon cher ami Guimbaté. Quand on fait les élections à travers le monde, il y a l'enjeu participation. Et aujourd'hui, nous avons vu, nous sommes rendus compte, et selon la mission d'observation que l'INELIT a été et une coalition des organisations des confessions religieuses nous avons déployé sur le terrain, le calcul fait, nous sommes au-delà de 80% de participation de la population congolaise aux élections. En d'autres termes,
et
ça
donc,
veut dire
selon AETA, il y a eu 80% de participation.
Au-delà de 80%.
Avant que la CENI ne puisse donner ces chiffres.
Nous sommes des citoyens. Nous avons la liberté de faire des projections de participation. Parce sous d'autres cieux, le grand inconnu dans une élection, c'est le taux de participation. Et aujourd'hui, nous avons eu des engouements à travers toutes les provinces. Et aujourd'hui, ces engouements, cette participation élevée, c'est l'expression de la crédibilisation, tout d'abord de l'appropriation du processus électoral par les Congolais eux-mêmes, et aussi par ricochet, c'est la crédibilisation de l'opération électorale. Voilà. Et nous en réjouissons.
Vous évoquez les chiffres de 80%, ça vient de l'AETA. C'est vrai que la CENI n'a pas encore donné des chiffres officiels sur les taux de participation. Mais vous, en tant qu'expert en sciences électorales, dans un vote comme celui qui s'est déroulé aujourd'hui, quels pourraient être les taux de participation en deçà duquel on peut remettre en cause la légitimité des institutions issues de ces élections?
Et vous savez, quand on organise les élections selon les standards et les normes internationaux en matière d'organisation des élections, il n'y a pas un taux fixé. Parce que dans le même, comme vous voyez, le pays de vieille démocratie, les taux de participation est en dessous 20, 30, 40%. Cela ne remet pas en question. Parce que la légitimité qu'on confère aux élus est le résultant, ou bien la résultante, du calcul fait sur les suffrages valablement exprimés, et qu'on fait ce calcul et on fait la légitimité aux élus. C'est pour vous dire, ici, aujourd'hui, étant donné les élections historiques, nous avons vu plus de 80% de participation. Ça nous donne l'image même de la volonté du peuple congolais de renouveler de renouveler les institutions, de renouveler les animateurs, parce que toutes les institutions sont hors mandat et tous les animateurs sont hors mandat, et aujourd'hui ces élections vont nous donner comme résultat l'alternance politique. C'est la première fois que dans l'histoire que nous assistons entre le président entrant et le président sortant, ils font remise et reprise, ce qui n'a pas été le cas avec Kassavubu, avec Mobutu et avec Musée Désiré Kabila.
Merci, professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au centre d'études politiques, n'est-ce pas, de cette université. Le vote s'est déroulé aujourd'hui en RDC. Quelle est l'évaluation que vous faites, n'est-ce pas, du déroulement de ces votes?
Enfin, l'aboutissement douloureux d'un processus risqué, disputé, un processus de consensus, à la fois d'affrontement. On a tout vu pour en arriver là. Mais ce que l'on peut retenir de mieux de cette élection, c'est le fait que, pour la première fois en République démocratique du Congo, un chef de l'État organise les élections pour lesquelles il n'est pas candidat. Et l'essentiel n'est pas d'organiser les élections. Il faut organiser les élections et les bonnes élections. En fait, les élections doivent être une source de pouvoir. Elles confèrent une certaine légitimité aux institutions. Et de ce point de vue, il faudrait opérer un meilleur transfert du pouvoir, c'est-à-dire du corps électoral, vers les institutions qui seront mises en place. Alors, si vous faites une bonne évaluation de cette élection aujourd'hui, il faut dire que nous n'avons pas encore tous les éléments pour faire une évaluation exhaustive, mais avec les éléments entre mains, il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation par la CENI. Et ces problèmes d'organisation vont de l'affichage des listes, un affichage assez chaotique des listes qui ne s'est jamais fait d'ailleurs dans le délai réglementaire. Vous avez une cartographie de bureaux de vote qui subissait à tout moment de nombreux chamboulements, ce qui a véritablement créé des problèmes au niveau de l'identification du bureau par les électeurs. Vous avez évidemment des listes qui ont manqué dans beaucoup de bureaux et qui ont soit créé des retards dans le début des opérations. Et donc vous avez là une liste assez longue qui montre bien qu'au niveau de la CENI, il y a eu véritablement de problèmes d'organisation et de problèmes de fonctionnement. Alors que la CENI de 2018 disposait de beaucoup de temps pour organiser ces élections, contrairement à la CENI de 2006 et celle de 2011. Pourquoi, avec le temps dont la CENI a bénéficié, elle n'a pas été en mesure d'organiser les élections de manière très satisfaisante?
Est-ce que ce ne serait pas aussi lié au fait que cette fois-ci, la CENI n'a pas bénéficié, n'est-ce pas, n'a pas voulu bénéficier de l'assistance de la communauté internationale?
Alors, c'est là la deuxième question importante. Ça veut dire, à partir du moment où nous levons l'option que nous sommes en mesure d'organiser les élections nous-mêmes et que nous sommes en mesure de mieux les organiser sans appui extérieur, toute la planète nous regarde. Elle nous regarde, elle. Et toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est que, ok, vous aviez dit que vous étiez à mesure d'organiser les meilleures élections sans appui extérieur. Eh bien, comment ces élections? Quels sont, évidemment, les résultats en termes d'organisation qui sortiront de ces élections? On est là devant un défi important, parce que les organiser par nous-mêmes était aussi une fierté nationale. Mais est-ce que c'est là que nous devons répondre à la question de savoir, êtes-nous, oui ou non, à mesure d'organiser les élections sans appui extérieur? Et donc, à cette question, tous, nous devons y répondre.
Oui, vous avez dit qu'on a, on a tout vu, n'est-ce pas, pour en arriver là. Un vote qui s'est déroulé sur fond des méfiances. Le dernier cas, c'est l'acte d'engagement, n'est-ce pas, que la SADC a proposé aux différents acteurs, n'est-ce pas, à ces processus. Ce texte a été signé par les candidats du FC seulement, avec la CENI. Les autres candidats avaient conditionné leur signature par certains amendements qui n'ont pas été pris en compte. Donc, jusqu'à la dernière minute, on aura cherché les consensus, mais en vain.
Alors, cela traduit bien qu'en fait, le processus se déroule dans une situation de rupture de consensus. Et cette rupture a fait que les acteurs ne soient plus en mesure d'être engagés par les mêmes règles, d'être engagés par si vous voulez, un seul document sur lequel tous apposeraient des signatures. Et donc cette rupture du consensus va se traduire par après, évidemment, par l'engorgement des tribunaux, par, disons, de réclamations diverses, par les différentes parties qui auront estimé que le processus n'aura pas été transparent. Mais au-delà de ça, il y a une autre question qui est une question capitale, c'est l'inclusivité du processus. Est-ce que le processus est inclusif? À partir du moment où vous avez une élection présidentielle qui est une élection à un seul tour, donc il faut dire qu'une différence de voix, 2000, 3000 voix, peut être très déterminante. Alors, c'est dans ces conditions où une élection est une élection présidentielle à un tour et on voit qu'une bonne partie de la population parle d'un million de voix, plus d'un million de voix qui n'ont pas participé. Et donc, vous avez là une situation qui peut déboucher sur la modification de la volonté d'un corps électoral et qui, du coup, peut évidemment déboucher également sur une sorte de modification de résultats final. Et ce cas de figure va porter véritablement atteinte à la signification accordée à l'élection présidentielle si véritablement c'est une élection très serrée. Et donc, vous avez là toute une litanie de questions que cette élection pose. Une élection, véritablement, cette signification du transfert de légitimité si vous veillez à son inclusivité. Alors, pour le moment, non seulement il y a la question de nos amis de Beni, de Boutembo et de Yumbi, mais vous avez également plusieurs électeurs qui se sont présentés au bureau de vote, qui n'ont pas su voter, tout simplement, soit parce que elles ont cherché les noms, ne l'ont jamais trouvé, soit alors parce que le processus électoral a commencé trop tard et que donc, ils ont passé toute la journée au bureau de vote. Et donc, tous ces dysfonctionnements peuvent, si vous voulez, modifier substantiellement la volonté du corps électoral.
Voilà, vous évoquez certains dysfonctionnements. Vous avez parlé, n'est-ce pas, des pressions posées dans l'organisation de ces élections. Nous avons aussi relevé ici cette rupture, n'est-ce pas, des consensus. Mais en dépit de cela, il y a Yangouma, vous avez me suivi, M. Jérôme Bonsou, qui a donné les chiffres de l'AETA. Il parle de 80% des taux de participation. Comment vous expliquez cet engouement?
Bon, alors, le taux de participation exact ne nous est pas encore donné par la CENI, mais je crois qu'il y a profondément au sein de la population congolaise une volonté de changement, une volonté de voir la population mettre en place des institutions qui sont issues d'elles-mêmes. Et donc, cette volonté s'est traduite généralement par un taux de participation assez accru. Mais il serait assez précipité de ma part de pouvoir avaliser ce taux de participation, tant il est vrai que jusqu'à maintenant, la CENI ne nous a pas encore livré les chiffres réels. Et donc, cette précipitation, cet engouement de la population, je crois que doit être un élément très déterminant qu'il faudra analyser assez minutieusement.
Alain Lomandja, analyste des questions électorales, votre évaluation par rapport aux élections qui se sont déroulées ces jours en RDC.
Oui, Guy Maté, je voudrais d'abord quand même vous appeler un peu à la prudence par rapport aux chiffres avancés par mon frère Bonso, parce que vous savez que la plus grande mission d'observation électorale, c'est la mission de la CENCO. Vous savez qu'ils ont tous les moyens techniques, qu'ils ont un call center et qu'ils n'est pas encore arrivé à donner des taux de participation. Et je ne sais pas, à l'État, combien d'observateurs ils ont déployé pour arriver à une telle conclusion. Donc, j'appelle beaucoup à la prudence et qu'on ne fixe pas ces chiffres-là pour conditionner l'esprit des auditeurs. Et donc, moi, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, on a vécu une expérience historique aujourd'hui. Et quelle que soit l'ampleur et l'importance des problèmes expérimentés, il faut commencer par saluer l'engagement des populations dans ce processus électoral. Et cet engagement, pour moi, c'est une expression d'une impatience qui a duré plus de 2 ans. Et donc, je me dis, vraiment, aujourd'hui, on a vu un peuple qui aime son pays et qui lutte pour le changement. Ceci dit, j'ai en tête une première comparaison. En 2011, la série de M. Ngoï Moulunda a disposé de 8 mois pour organiser les élections. Celle de M. Corneille Nanga a disposé de 3 ans, parce qu'ils sont arrivés là fin 2015, de 3 ans, mais ils n'ont pas pu faire mieux que ce que nous avons vu en 2011. Et on ne peut pas dire au regard des résultats du processus électoral aujourd'hui que ces trois années ont servi réellement à organiser les élections parfaites et irréprochables qui nous étaient promises par le président de la République et par le président de la CENI. C'est sur ce point-là donc que je reste un peu hésitant et je me dis que quelque part, on peut se faire directement deux observations. La première, c'est quoi? C'est que en peu de mots, on peut dire qu'une élection est une photographie instantanée de l'état d'un pays. Aujourd'hui, on a vu une image de grandeur nature de la RDC, avec des endroits où le vote se déroule plus ou moins bien et d'autres où il est assez chaotique, avec des centres bien sécurisés à plusieurs endroits et d'autres où ce sont plutôt les groupes armés qui font la loi et qui s'imposent sur les électeurs, avec des intimidations des forces de l'ordre et des actes de corruption qui ont pu être identifiés par des missions d'observation à certains endroits. Ma deuxième observation, c'est que malheureusement, la qualité d'une élection est toujours fonction de la qualité de tout le processus qui a conduit à sa préparation. Je dois reconnaître qu'il est maintenant difficile, à l'heure qu'il est, de tirer déjà des conclusions générales sur l'impact ou l'incidence globale de telles défaillances logistiques ou des irrégularités ou des fraudes ou des problèmes sécuritaires qu'on a observés. Mais si je me base un peu sur les rapports qui ont été donnés par la CENCO au cours de la journée, et vous me permettrez de saluer ici le travail très professionnel de mon ancien collègue Cyril Ebotoko qui supervise cette émission-là, on peut quand même observer qu'il y a de grosses tendances qui se dégagent de la journée d'aujourd'hui. Et pour moi, la première tendance, c'est quoi? C'est qu'on a eu des problèmes techniques et logistiques très importants. On n'en connaît pas encore l'ampleur, mais c'était quand même des problèmes très importants. Vous avez entendu parler des pannes des machines à voter. Vous avez entendu qu'à certains endroits, il n'y a pas eu de solution. À d'autres, oui, il y a eu des solutions de réchange qui sont arrivées. Et même déjà à Kinshasa, on a vu que les solutions arrivaient des heures et des heures plus tard. Vous avez entendu parler des batteries qui se déchargeaient, des mots de passe oubliés, des listes électorales qui n'existaient pas, d'une cartographie qu'on ne maîtrisait pas parce que les bureaux de vote ont été supprimés à la dernière minute. Et donc tout ça, ça posait de sérieux problèmes qui auront un impact sur le résultat final de ces élections. La deuxième chose que moi je constate, c'est que la procédure de vote a révélé un double visage électoral du Congo. Vous avez d'un côté cet électorat plus ou moins jeune, plus ou moins urbain, qui maîtrise les nouvelles technologies de l'information et de la communication et qui est capable de s'adapter très facilement à l'usage des machines à voter. Et vous avez de l'autre côté cet électorat plus ou moins adulte, plus ou moins paysan, qui découvre pour la première fois des écrans tactiles et qui a besoin d'un accompagnement pour que le vote soit effectué. Et donc là, on a vu cette différence. Là, il y a des bureaux, on a parlé des mahadi, où les gens, un électeur pouvait même passer 10 minutes dans un bureau de vote. Et moi, la leçon que j'en tire, c'est que pour une innovation, c'en était une. Mais peut-être que les pays avaient besoin de beaucoup mieux de préparation pour que tout le monde puisse effectuer son devoir en utilisant la machine à voter.
Monsieur Alain Lomadja, vous avez fait un parallélisme, n'est-ce pas, entre l'organisation des élections en 2011 et celle de 2018. Vous estimez que ceux qui ont organisé les élections en 2011 ont eu seulement 8 mois, et effectivement, vous avez raison. Et ceux de 2018 ont eu 3 ans, mais vous dites qu'ils n'ont pas pu faire mieux qu'en 2011. Vous pensez que vous avez tous les éléments pour le moment, vous avez tous les éléments qui peuvent vous pousser à conclure que les élections de 2011 se sont bien passées que celles de 2018?
Mais si vous avez bien suivi, je n'ai pas fait de comparaison en ce sens que les élections de 2011 étaient meilleures que celles d'aujourd'hui. J'ai plutôt dit que les élections de 2018
n'ont pas été mieux organisés que ceux de 2011. C'est-à-dire que la CENI de M. Nanga n'a pas fait mieux que ce que nous avons vu au cours du processus électoral de 2011. Et je donne pour exemple, je m'appuie principalement sur les missions d'observation dont j'ai écouté les rapports à ce niveau du processus électoral. Et les problèmes qu'on a vus aujourd'hui, c'était quoi? Par exemple, le professeur a évoqué les listes électorales qui arrivaient en retard qui n'étaient pas affichées. Les bureaux de vote que les gens n'arrivaient pas à identifier parce qu'ils ont été délocalisés. Des bureaux de vote qui se trouvaient à des endroits qui sont interdits par la loi. Et tous ces facteurs-là, on les a observés aussi en 2011. Ça veut dire qu'on n'a pas fait mieux malgré les 3 années qu'on a prises dans la préparation de ces élections-là.
Merci. Nous allons écouter Monsieur Bonceau. On va écouter cette réflexion qui vous est faite, à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Lubumbashi.
Bouté Papoyi depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À mon humble avis, je salue cette journée engouée des milliers et millions d'électeurs qui est toute l'étendue du territoire national qui viennent de s'acquitter de ces grandes erreurs civiles. Mais même obstant, ces dernières, moi je suspecte déjà les bouches d'irles dans certains points provoquant par le fait que certaines machines à voter s'est bloquées. Mais à chaque fois que cela s'est bloqué, les agents électoraux les faisaient sortir à l'extérieur pour réparer et le ramener d'autres machines au lieu de celles qui s'est bloquées. C'est pourquoi je peux affirmer qu'il y a eu bourrage, car personne n'est parti avec ce technicien pour se rassurer qu'il n'avait pas fraudé.
Merci Jérôme Bosso.
Merci, cher ami Kakwei. Avant de répondre à votre préoccupation, j'essaie d'apaiser M. Alain. Jérôme Bonceau n'a pas donné un taux de participation formel. C'est une estimation personnelle d'une structure. Et cela ne veut pas dire que, parce qu'il y a tel qui a déployé une forte mission d'observation, c'est celle-là qui doit donner lever l'option là-dessus. Il ne suffit pas de grand nombre, cher ami Alain. Il faut avoir l'expertise qui renferme le grand nombre. On peut être un petit nombre, mais avec une expertise pointue en matière électorale, doublée d'une expérience et d'une expertise, je crois qu'on peut s'en passer du grand nombre auquel vous faites allusion. Ici, j'ai donné le 80%, et c'est un chiffre estimatif, informel, qui n'engage ni CENI, ni d'autres commissions d'observation. Ici, vous parlez... Heureusement, vous avez salué qu'il y a autant de millions, ça me réconforte. Ça nous réconforte dans notre mission d'observation qui est composée d'une synergie de confessions religieuses et des organisations spécialisées en matière des élections que nous avons dit le taux va aller au-delà. Et d'autres structures sont libres de donner leur taux de participation tout en attendant un taux de participation formel qui viendrait du pouvoir organisateur des élections.
Mais il a plutôt raison quand il dit qu'à force de parler, n'est-ce pas, de ces taux de 80% de participation, vous risquez de conditionner, n'est-ce pas, l'évaluation des autres organisations qui sont sur le terrain.
Non, on ne peut pas conditionner parce que vous savez, ici, la grande guerre qui va se... après le dépouillement, c'est la guerre des communiqués, des déclarations préliminaires des différentes missions d'observation. Parce que chaque mission d'observation a toujours été parrainée. Je connais parce que j'ai fait un travail et une thèse là-dessus et ça serait parrainé. Donc, il y a une guerre qui va sortir. Il y a d'autres missions d'observation, tant domestiques ou internationales, qui vont faire des déclarations en vue de discréditer le résultat. D'autres vont faire des déclarations de sorte de soutenir le processus pour que nous puissions aller au quatrième cycle. Parce qu'en matière d'organisation des élections, cher ami Guimaté, ce n'est pas le fait de regarder ce que vous avez raté, c'est le souci de voir comment vous devez améliorer les prochaines élections en introduisant les formes électorales. C'est bon, on est d'accord. Notre ami parle de bourrage des urnes, oui, mais quelle est la mission, quel est votre travail? Parce que votre participation en termes de millions, ça, c'est une expression de l'appropriation du processus électoral. Et vous devez le suivre du début à la fin. Lors du dépouillement, quand on a déplacé les machines, vous devez être regardé pour voir pourquoi on a pris telle machine et on l'a remplacée par l'autre. À ce moment-là, le processus électoral revient à vous. Nous avons un problème ici, dans ces histoires, c'est ce qu'on appelle la courtoisie électorale. Nous avons dit plus de 15 000 candidat à la députation nationale. Pour 500 sièges, il y aura 14 500 qui vont perdre. Et ceux-là, ils ne vont pas reconnaître que le projet était ici. Ils vont profiter de tout ce qu'il y a comme défaillance pour dire c'est à cause de cela. Nous avons dit 19 000 de candidats à la députation provinciale. Pour 710 sièges. Mais le reste vont piller. Nous avons.
Jean Bosso, compte tenu, n'est-ce pas, de la méfiance qui a caractérisé ces processus électoraux, qu'est-ce faut-il faire pour relever ces défis d'acceptation des résultats?
C'est une pomme discorde. Partout au monde, personne n'a jamais accepté sa défaite. C'est comme une équipe de football. Aucune équipe n'a jamais accepté sa défaite pour faire le fair play. Parce que ici, nous nous trouvons devant un fait accompli en matière des élections. Il y a ce qu'on appelle la courtoisie électorale. En quoi consiste-t-elle? C'est l'acceptation de sa défaite et la présentation de félicitations au candidat vainqueur. Et ici, chez nous, est-ce que nous allons assister à cette courtoisie électorale?
Et déjà, vous avez vu les divergences de vues, n'est-ce pas, autour de cette proposition de la SADC sur l'acte d'engagement. Les uns signent, les autres sont méfiants, réticents et refusent même de signer parce qu'il n'y a pas eu des amendements, n'est-ce pas, qu'ils ont exigés.
C'est ça le nœud du problème. C'est ça le décor qui est planté pour le lendemain. Qu'est-ce que nous allons assister à quoi? En 2011, nous avons assisté à la prestation de serment de deux candidats. Mais en 2018, nous risquons encore d'assister à ce même scénario. Et nous allons nous poser la question, nous Congolais, nous nous trouvons sur quelle planète électorale? Et c'est pourquoi nous disons, je salue les efforts fournis par les confessions religieuses en priant pour la paix, pour que les uns et les autres puissent accepter avec fair play la défaite, tout comme celui qui va gagner, puisse accepter sa victoire et présenter aussi ses encouragements à ceux qui ont perdu. Donc ici, nous disons, il y a un grand problème. Par exemple, le professeur Kabamba fait allusion de ceux-là qui n'ont pas trouvé leur nom. Avant de venir ici, je viens de sillonner Maluku, Kinkole, j'ai été dans différents sites. J'ai trouvé un monsieur qui, le nom ne se trouvait pas, en oubliant qu'il s'est fait enrôler plus de 4 fois. Or, la CENI a arrêté comme stratégie. On maintient le dernier enrôlement. Les 3 enrôlements précédents sont radiés. Et ce monsieur avait oublié qu'il s'est enrôlé dernièrement dans tel site auquel il devait, son nom se trouvait, mais il criait que son nom ne se trouve pas. Vous voyez autant de problèmes. Si on n'entre pas en profondeur, on risque de jeter un discrédit soit sur l'organisation, soit sur les filles. Quand bien même, il y a ceux-là dont leur nom, effectivement, ne se retrouve pas sur les listes électorales.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Il y a cette réflexion de Sami Kawele depuis Lubumbashi. Il dit: je vous affirme que les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales sont très mal organisées d'après mon constat, sous l'effet que certaines machines sont déjà abîmées et beaucoup de personnes n'ont pas trouvé leur nom sur la liste, et voire même les listes sont déchirées. Je vous confirme avec tout mon sérieux que 40% des électeurs ont élu, mais les autres ne l'ont pas fait, vu le désordre, surtout du côté de l'organisation de cette CENI.
Bon, en fait, les problèmes d'organisation sont réels. Moi-même, j'ai dû faire un tour pour voir un tout petit peu ce qui s'est passé. Et j'ai pu me rendre compte que si vous allez, par exemple, à Limété, notamment à Kingaboa, et vous avez des sites, vous avez des bureaux où les élections, jusqu'à 14 heures, les élections n'avaient pas encore commencé. Et donc, vous avez là des situations apocalyptiques. Je parle bien de Kingaboa, du côté de l'école primaire, bon, j'oublie encore le nom. Et comment justifier que le siège de la CENI soit à Kinshasa et que dans une commune qui est voisine de la Gombe, eh bien, qu'on reste juste 14 heures sans qu'il y ait vote? Ça montre bien qu'il y a une désorganisation complète. Et on ne va pas donc jeter, parce qu'on n'est pas très bien quelles sont les véritables difficultés que la CENI a eues, qui ont fait que les élections à Kinshasa, jusqu'à 14 heures, ne soient pas organisées dans certains bureaux de vote. Mais il y a là de véritables problèmes, des défis logistiques. Parce que quand vous regardez, on dit que en 2011, la CENI avait 27 hélicoptères, que la MONUSCO avait mis donc à sa disposition entre 3 et 5 avions, et ainsi de suite. Et donc, vous avez là un appui logistique qui était significatif et qui venait, entre autres, de partenaires de la CENI, notamment la MONUSCO. Mais aujourd'hui, la CENI a dû faire tout le seul. Et donc, il va sans dire que la CENI n'a pas encore suffisamment communiqué sur les problèmes et les véritables problèmes qu'il a rencontré.
Et voilà, pas parmi ces problèmes, il y a aussi des endroits où les témoins des partis politiques n'ont pas eu accès aux différents bureaux de vote. Est-ce que cela ne va pas poser des problèmes après?
Alors, là-dessus...
Les problèmes d'acceptation, n'est-ce pas, des résultats?
Alors, là-dessus, il faut bien analyser le problème. C'est-à-dire, cette plainte, on peut la considérer, mais il faudra y aller au cas par cas. Si dans un bureau, vous avez déjà six témoins, et donc la loi dit qu'on ne peut pas aller au-delà des six. Et donc, il sera difficile pour tous les autres témoins qui sont venus après de pouvoir entrer dans le bureau, parce que généralement, c'est des salles de classe avec une capacité très limitée de personnes. Et donc, mais il faudra aller au cas par cas. Mais par contre, s'il y avait suffisamment de place et que le président du bureau, ne connaissant pas la loi, eh bien, refuse l'accès à la salle aux différents témoins, là, je dois dire qu'il y a un problème. Parce que je parle de la connaissance de la loi, moi-même, quand je suis allé voter dans le bureau, j'ai pu constater que le président du bureau a fait étalage d'une une grande ignorance de la loi. Et donc, il ne permettait pas aux électeurs de venir avec une personne pour assistance, une personne de l'extérieur pour assistance. Pour lui, c'est qu'il fallait que l'assistance soit faite uniquement par le membre du bureau. Et donc là, je suis intervenu pour dire que ça, c'était véritablement une ignorance de la loi.
Il y a des analystes qui ont exprimé certaines inquiétudes de voir, n'est-ce pas, la CENI réussir l'organisation de ces opérations de vote. C'est vrai qu'il s'est posé beaucoup de problèmes, comme vous venez de le dire. Mais est-ce qu'on ne peut pas féliciter la CENI, ne fût-ce que pour le fait d'avoir tenu cette date du 30 décembre?
Alors, je crois que nous ne connaissons pas encore, c'est ce que je vous dis, que la CENI devra aussi suffisamment communiquer sur le problème et les vrais qu'il a rencontré. Tant sur le plan des finances, sur le plan de décaissement, sur le plan de la logistique, sur le plan de promesses faites par l'État et qui probablement n'ont pas été tenues. Et donc, c'est donc tous les éléments d'appréciation que la CENI n'a pas communiqué. Mais ce que l'on réalise aujourd'hui, c'est le résultat. Le résultat, c'est que sur terrain, eh bien, il y a des choses que la CENI a pu faire dans certains coins qui ont été bien faites. Par contre, ailleurs, eh bien, on a pu assister à quelque chose qui ressemblait comme un chaos, donc à un chaos. Il y a là, évidemment, de bonnes leçons à tirer, mais il y a aussi des couacs.
Monsieur Alain Lomanja, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Guébénin.
Kabemba dévoué Lubumbashi. Les élections sont entachées de beaucoup d'irrégularités. La machine à voter, qui était un véritable casse-tête pour les électeurs qui n'ont pas été sensibilisés sur son utilisation. Avec ça, il fallait mettre 3 à 5 minutes pour voter. Certains électeurs n'ont pas pu voter parce que leur nom ne figurait pas sur les listes et pourtant enrôlés dans le même centre. Les machines à voter qui tombaient de temps en temps en panne, bref, les élections chaotiques et contestées d'avance.
Oui, Alain Lomanja, c'était une réflexion qui venait de Lubumbashi.
Oui, je comprends parfaitement la réflexion de l'auditeur et c'est des problèmes réels qui ont été rencontrés par plusieurs électeurs sur le terrain. Mais ce que je pourrais plutôt garder un peu de verve par rapport à sa conclusion, étant donné que n'ayant pas tous les éléments d'analyse pour tirer une conclusion générale, je ne peux pas me permettre d'évaluer à l'heure qu'il est l'incidence ou l'impact de tous ces dysfonctionnements sur le processus de vote. Mais ce qui est évident, c'est que ces dysfonctionnements-là doivent avoir contribué certainement à diminuer les taux de vote, les taux de participation des électeurs, parce que on sait qu'à plusieurs endroits, d'après les rapports que j'ai entendus ou que j'ai vus, à plusieurs endroits, plusieurs électeurs n'ont pas pu participer au vote, soit parce que la procédure demandait beaucoup de temps, soit parce que les machines elles-mêmes tombaient en panne, soit parce que le bureau de vote n'était pas équipé à temps. Et si vous permettez, je voudrais rassurer mon frère Jérôme. Je l'appelle juste à un peu de prudence et un peu d'humilité par rapport au taux qu'il donne, parce que je suis certain que au moment où les dépouillements se font dans les bureaux de vote, on n'a pas les moyens techniques pour évaluer objectivement un taux de participation. Mais je comprends qu'ils avancent ces hypothèses, ce n'est pas un problème pour moi.
Oui, monsieur Alain Lomanja, vous n'êtes pas les rapporteurs de la CENI, mais à votre avis, comment la CENI pourrait-elle gérer les résultats des bureaux qui ont été occupés par les éléments des groupes armés? On a suivi, il y a des endroits où les groupes armés ont occupé, ils ont contrôlé, n'est-ce pas, les bureaux de vote, et ils ont posé même leur choix aux différents électeurs. Comment la CENI pourrait-elle gérer une telle situation?
Et là, vous soulevez un problème très important. Effectivement, j'ai entendu que, notamment dans le Nord, qu'il y a eu des groupes armés qui ont imposé aux électeurs des choix. Et il y a un paradoxe que j'ai constaté dans ce rapport-là. C'est que des groupes armés qui sont théoriquement ou officiellement contre le gouvernement de Kinshasa, mais qui imposent parfois de voter pour le candidat du PAS. Donc, je me suis posé beaucoup de questions sur cette contradiction-là. Alors maintenant, par rapport à la CENI, comment elle va traiter de ces questions-là? Je ne sais pas exactement, je ne sais pas si elle a le moyen de mesurer le taux d'influence de ces groupes armés sur le libre choix des électeurs. Je ne sais pas comment elle va s'en prendre pour apprécier les résultats qui sortiront de ce côté-là.
Oui, Monsieur Abel Lomanja, comment vous entrevoyez la suite, hein? L'élection a eu lieu aujourd'hui et la CENI s'est donné, n'est-ce pas, 6 jours pour publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Comment vous entrevoyez la suite?
Je pense que ça va être assez compliqué pour la CENI parce que si réellement elle respecte l'engagement qu'elle a pris devant toute la nation et la communauté internationale, de ne se fier qu'aux résultats manuels qui seront faits par les témoins dans les bureaux de vote, je ne vois pas la CENI proclamer ces résultats dans 6 jours. À moins qu'elle travaille sur la base des résultats qui seront compilés ou qui ont été compilés automatiquement par la machine à voter et qu'elle ignore le travail des centres locaux de compilation qui ne sont pas toujours à côté des lieux où les votes se sont déroulés. Il y a parfois des voyages d'une journée ou d'une demi-journée pour arriver au centre local de compilation. Je ne vois pas la CENI se servir de résultats manuels et proclamer les résultats dans 6 jours. Mais peut-être qu'ils vont y arriver, on ne sait jamais. Mais je doute fort que cela soit possible.
Merci.
Par contre, je pense que...
Merci, Monsieur l'abbé. Je considère ça comme votre conclusion. Monsieur Jérôme Bonceau, comment vous êtes travaillé la suite? Dans 6 jours, la CENI nous donne, n'est-ce pas, les noms des résultats provisoires, n'est-ce pas, des élections.
Ça serait un défi pour la CENI de donner les résultats en temps réel. Le fait de garder les résultats et faire attendre beaucoup de temps, ça risquerait de créer encore de frustration et de mécontent. Nous pensons que la CENI va donner les résultats qui va être la résultante même de vérité des urnes et nous pensons que les uns et les autres vont se retrouver pour qu'on puisse assister à cette alternance politique civilisée tant attendue dans notre pays.
Professeur Félicien Kabamba, votre conclusion, comment vous entrevoyez la suite?
Eh bien, il faudra que le processus de compilation de résultats se fasse dans la transparence la plus grande. Cela permettra de soumettre le pouvoir à l'onction populaire, mais aussi ça permettra que la tissu électorale soit un véritable vecteur d'habilité.
Et vous pensez qu'en 6 jours, c'est difficile d'avoir les résultats?
Eh bien, il ne faudra pas aller dans la précipitation. Il faudra que le travail se fasse dans la grande transparence, mais aussi il faudra ne pas rompre donc la confiance avec les autres partis, faire en sorte que toutes les parties, notamment les témoins des partis politiques observateurs, participent au reste du processus.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique. Merci à Alain Irung et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Semoujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite au programme sur Radio Capi.